Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Olivier Tosserie.
Un magazine très largement consacré à la disparition de Nelson Mandela, l'ancien président sud-africain, héros de la lutte contre l'apartheid, s'est éteint à l'âge de 95 ans. Nous reviendrons sur cette figure historique, écouterons le témoignage de Mgr Lafont, qu'il a très bien connu, et rappellerons le voyage effectué par Jean-Paul II en Afrique du Sud en 1995. Le pape François a reçu ce vendredi le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Détail sur cette rencontre dans quelques instants. Et puis alors qu'une intervention militaire française est en cours en Centrafrique, nous reparlerons de ce pays livré à l'anarchie et au chaos. Bienvenue dans ce magazine. Les hommages affluent du monde entier pour saluer la mémoire de Nelson Mandela, l'ancien président sud-africain, est mort à l'âge de 95 ans dans son domicile de Johannesburg, entouré de sa famille. Celui que l'on surnommait affectueusement Madiba était une figure unanimement respectée et admirée pour avoir mis fin au régime de l'apartheid. Il était une inspiration pour le monde entier, a réagi Frédéric de Klerk, dernier président de l'apartheid, avec qui il partagea le prix Nobel de la paix. Il nous a appris à vivre ensemble et l'Afrique du Sud ne partira pas en flammes après sa mort, a déclaré l'archevêque anglican Desmond Tutu. Réaction aussi du président américain Barack Obama depuis la Maison Blanche, qui a salué un homme courageux et profondément bon. De la Chine à l'Iran, du Brésil à l'Europe, en passant par le Conseil de sécurité de l'ONU, rarement la figure d'un homme aura été aussi unanime salué. L'onde de choc est immense, bien sûr, en Afrique du Sud, où se mêlent les chants, les danses et les larmes. Retour donc sur la figure de Nelson Mandela avec l'un de ses biographes, Jean Guillonneau. Il a également traduit ses mémoires, Un long chemin vers la liberté. Retour avec lui sur l'icône de la lutte anti-apartheid et sur son parcours politique.
Sa carrière politique commence vraiment quand il arrive à Johannesburg et qu'il rencontre un homme qui sera son compagnon de détention, qui est Walter Sisulu, qui est un peu plus âgé que lui. On est en 42-43, et c'est lui et un certain nombre d'hommes qui sont autour. Ces gens-là vont former un groupe, et ils vont pénétrer dans l'ANC, et vont créer un mouvement qu'ils appellent la Ligue de la Jeunesse de l'ANC. C'est un peu comme un cheval de Troie, si vous voulez, à l'intérieur de l'ANC. Et en quelques années, ils vont prendre le pouvoir. Et l'apartheid va radicaliser le combat. C'est là, dans ces années 48-60, que Mandela va petit à petit prendre un rôle de plus en plus important à l'intérieur de l'ANC. Sa carrière politique de militant va prendre une dimension national, en quelque sorte, en Afrique du Sud.
En 1962, Nelson Mandela est arrêté. Libéré en 1990, il sera élu à la tête du pays 4 ans plus tard. Une nouvelle Afrique du Sud peut naître, sans esprit de vengeance.
En fait, il y avait une peur extraordinaire en Afrique du Sud et même au-delà de, tout d'un coup, la vengeance. Et que ça se termine, comme si souvent ça a pu se passer dans le monde, par une espèce de guerre civile monstrueuse où on se serait entretué. Et évidemment, les 5 millions de blancs devant les 30 millions de noirs, ça aurait pu être un massacre invraisemblable. Après 3 siècles de colonisation et 50 ans d'apartheid, Mandela est l'homme qui a permis à l'Afrique du Sud, sur le plan politique, de sortir de cette situation par un système démocratique. Et ça, c'est tout à fait exceptionnel.
Comment définiriez-vous la personnalité de Nelson Mandela ?
C'est un homme qui a des attitudes extrêmement étonnantes. Quand il était en prison, il a appris l'afrikaans, qui est la langue des afrikaners, c'est-à-dire la langue des ennemis, en quelque sorte, entre guillemets. Et il a lu la littérature des Blancs, et en particulier parce qu'il considérait que pour discuter avec son ennemi, il faut le connaître, et pour le connaître, il faut rentrer dans son univers culturel, linguistique, etc. Et ça, c'est une attitude tout à fait exceptionnelle. C'est-à-dire toujours trouver la solution positive, qui respecte l'adversaire, tout en restant extrêmement ferme sur ses positions. C'est ce double aspect.
Autre trait saillant de son caractère, sa capacité à défendre ses idées, il les a toujours fait passer avant ses intérêts personnels.
Mandela, il n'a pas eu de vie personnelle. Winnie Mandela, dans ses mémoires, elle dit « La vie avec lui, c'était la vie sans lui ». C'est-à-dire que son rôle politique et historique, tout d'un coup, est devenu la seule dimension de son existence personnelle. Et pour moi, c'est un des très rares exemples de personnage historique à qui on n'a pas grand-chose à reprocher, quoi.
Incarcéré, il a d'ailleurs refusé à plusieurs reprises une libération qu'on lui proposait s'il renonçait à son combat.
Absolument. Et d'ailleurs, on lui demandait quoi ? D'abandonner la lutte armée, la lutte politique, et d'aller s'installer dans le Transkei, c'est-à-dire de reconnaître le système d'apartheid par ce biais, quoi. On lui a proposé plusieurs fois de sortir de prison. Ça les aurait bien arrangé qu'il abandonne la lutte. Ben, il n'a pas abandonné.
Les hommages, je vous lisais, affluent, qu'ils soient chefs d'État ou simples citoyens, tous louent le courage et la détermination d'une figure d'exception, un artisan de la réconciliation. Le pape François a rendu quant à lui un vibrant hommage à celui qu'on surnommait Madiba, affirmant qu'il avait forgé une nouvelle Afrique du Sud et appelle les Sud-Africains à garder son exemple pour un avenir de réconciliation. Monseigneur Emmanuel Lafont, évêque de Cayenne, a bien connu Nelson Mandela, prêtre Fidei Domum en Afrique du Sud, dans le diocèse de Johannesburg à partir de 1983. Il était présent aux côtés de Madiba dès les premières heures de son combat dans les bidonvilles de Soweto.
Je retiens d'abord cette immense humanité qui faisait que dès qu'on le rencontrait, on était subjugué, intimidé et attiré. Il avait une belle prestance, c'était un bel homme, mais en même temps il vous mettait à l'aise, il avait beaucoup d'humour et il avait une attention très grande aux personnes. Très, très grande. Il se souvenait des personnes. Donc voilà, on était impressionnés, mais non pas refroidis, bien au contraire.
Quand on parle de Nelson Mandela, on parle de valeurs de non-violence, de résistance, de réconciliation. Ces valeurs constituent un héritage. Peut-on déjà parler d'un héritage ? Comment le qualifieriez-vous ?
Bien sûr, son héritage est énorme. Son héritage est énorme parce que voilà quelqu'un qui a voulu de toutes ses forces et qui a payé un prix énorme pour que son peuple soit délivré d'une plaie incroyable. Il n'a ménagé aucun effort et il a même sacrifié sa vie de famille, d'ailleurs. Et il en était très conscient et il en a beaucoup souffert. Et en même temps, c'était un homme qui profondément haïssait la violence et qui a toujours pensé que la négociation était le seul moyen d'arriver à une conclusion qui ne lèse personne. Et il savait bien que les négociations voulaient dire des compromis. Et il était prêt à faire des compromis, sauf sur l'essentiel. Il ne pouvait pas compromettre la dignité, la liberté, l'égalité, si j'ose dire. Mais pour le reste, il était prêt à tendre la main à beaucoup. Ensuite, on retient évidemment cette capacité qu'il a eue de rassembler, de faire l'unanimité d'une nation divisée depuis des siècles et de prôner une réconciliation qui a trouvé un écho très important finalement dans son peuple et dans pratiquement toutes les couches de la société sud-africaine. Même si individuellement les gens peuvent rester avec leurs a priori, tout de même il a favorisé là quelque chose de tout à fait étonnant.
Alors justement, comment expliquer cette unanimité qu'il fait autour de lui dans le monde ?
Bah, d'abord parce que c'est une des plus belles histoires de la fin du XXe siècle. Et ensuite parce que Nelson Mandela représente, si j'ose dire, un des plus beaux fleurons de l'humanisme africain que le monde ne connaît pas, mais qui existe et depuis longtemps, qui a énormément à apporter à l'ensemble de l'humanité. Cette chaleur africaine, cette volonté de négociation, de ne laisser personne en dehors de la route, cette tradition très ancienne de l'Afrique, de celui qui est le chef, mais qui gouverne par consensus et non pas par oukase. Le meilleur de l'Afrique était en lui et c'est très beau. Et je crois que le monde entier a besoin de ce meilleur de l'Afrique et que le jour où ils auront dépassé un peu les clivages et les séquelles de ces siècles d'oppression, de colonialisme et tout cela, ils apporteront au monde le meilleur de ce que Mandela a déjà apporté.
Quelle image retenez-vous de lui ?
Il y en a tellement, mais voilà un homme qui n'a cessé de tendre la main à ses anciens adversaires. Je retiens cette image quand il a voulu inviter à la présidence de la République toutes les épouses et les veuves du parti au pouvoir qui l'avait mis en prison, aussi bien que des veuves et des femmes de l'ANC, de son propre parti. Et quand Mme Verwoerd, la veuve de celui qui l'a mis en prison et qui est un des grands constructeurs de l'apartheid, a refusé d'y aller, et me disant « mais s'il vient, je lui offrirai une tasse de thé », eh bien il y est allé et il a pris une tasse de thé avec Mme Verwoerd. Ça, c'est du Mandela à son plus beau.
Le vainqueur de l'apartheid et le vainqueur du communisme échangeant une longue poignée de main, c'était le 16 septembre 1995. Sur le tarmac de l'aéroport de Johannesburg, Nelson Mandela accueillait le pape Jean-Paul II qui effectuait alors, selon ses propres mots, l'étape la plus émouvante de son périple africain. Les deux hommes s'admiraient, s'estimaient mutuellement et c'est un hommage chaleureux et appuyé que Jean-Paul II avait tenu à rendre à Madiba.
I wish to pay tribute to you. Mr. President.
Je veux vous rendre hommage, Monsieur le Président, à vous qui, après avoir été le témoin silencieux et souffrant de l'aspiration de votre peuple à une authentique libération, portez sur vos épaules le fardeau d'avoir à encourager chacun des Sud-Africains pour faire aboutir la réconciliation nationale et la reconstruction.
To succeed in the task of national reconciliation and reconstruction.
De son côté, le président Mandela avait rappelé que Jean-Paul II s'était refusé à visiter le pays aussi longtemps que le régime d'apartheid était en place. Il avait souhaité lui rendre hommage.
For many years, South Africans have looked forward.
Depuis de nombreuses années, les Sud-Africains espéraient ce jour, dire que cette visite était attendue depuis longtemps et rendre hommage à votre propre dégoût de l'apartheid.
To your own abhorrence of the system of apartheid.
Les deux hommes s'étaient de nouveau rencontrés le 18 juin 1998. Nelson Mandela s'était cette fois rendu au Vatican. Il avait également assisté aux funérailles du pape polonais. Recevant en audience les membres de la Commission théologique internationale dans la matinée de vendredi, le pape François a rappelé que la foi en un Dieu unique était incompatible avec la violence et l'intolérance. Face à une trentaine de théologiens réunis au Vatican en assemblée plénière, le souverain pontife a en outre assuré que se rapprocher des pauvres rend plus sage. La foi dans le Dieu unique et trois fois saint n'est pas et ne peut être jamais génératrice de violence et d'intolérance, a ainsi souligné le pape en reprenant l'un des thèmes d'étude de la commission. Au contraire, a-t-il expliqué, son caractère hautement rationnel lui confère une dimension universelle capable d'unir les hommes de bonne volonté et de poursuivre. Par ailleurs, la révélation définitive de Dieu en Jésus-Christ rend désormais impossible tout recours à la violence au nom de Dieu. C'est le refus de la violence de Jésus mort sur la croix qui a apporté la paix au monde, a-t-il ajouté. Cette incompatibilité a été développée à plusieurs reprises par Benoît XVI au cours de son pontificat. Le pape a également reçu ce vendredi matin le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, le portugais Antonio Guterres, l'occasion d'une rencontre chaleureuse entre les deux hommes autour d'un thème qui est particulièrement cher au pape. On se souvient de la visite de François le 7 juillet dernier sur l'île de Lampedusa où il avait rencontré des réfugiés et dénoncé la mondialisation de l'indifférence. Des paroles qui avaient fait le tour du monde et qui ont touché particulièrement Antonio Guterres. De passage dans nos studios, il s'est entretenu avec Olivier Bonnel.
C'était surtout pour moi un moment pour exprimer la gratitude et l'appréciation de l'HCR face à ce courage, à cet engagement du pape François vis-à-vis de la protection des réfugiés et des droits des migrants en général. L'Église a été toujours une voix pour la tolérance, une voix pour le respect de la diversité, pour la compréhension de la richesse de cette diversité, pour une protection effective des droits des réfugiés. Mais avec le pape François, c'est pas seulement la doctrine, c'est aussi, je dirais, un engagement personnel, c'est le témoignage de vie, et dont la visite à Lampedusa a été un exemple magnifique. C'est différent de faire un discours ou d'émettre une déclaration. Le fait qu'il était là, qu'il parlait avec les gens qui souffrent, qu'il partageait cette expérience dramatique, en même temps qu'il a déjà visité aussi le Centro Astal, le centre réfugié ici à Rome, des jésuites. Il y a un intérêt personnel, un engagement personnel, qui pour nous c'est non seulement un appui extraordinaire par l'impact de ce témoignage dans les opinions publiques et dans l'action des gouvernements, mais aussi ça nous donne plus de force pour continuer notre travail.
Une quarantaine de dirigeants africains se sont réunis ce vendredi 6 décembre 2013 à Paris pour un sommet axé sur la sécurité. Un rendez-vous qui doit durer 2 jours à l'initiative du président François Hollande. Au menu de la rencontre, l'intervention française en Centrafrique et les situations au Sahel. Après le feu vert de l'ONU jeudi, l'opération militaire française en Centrafrique a débuté ce vendredi matin avec le déploiement de patrouilles dans Bangui, la capitale. À terme, l'opération mobilisera 1200 soldats. Don Mathieu Bondobo est un prêtre centrafricain étudiant à Rome. Il a perdu son frère cette semaine, tué dans des affrontements entre ex-membres de la Seleka et des groupes d'autodéfense à Bangui. Malgré la douleur et l'épreuve traversée par sa famille, il porte malgré tout un regard d'espérance sur la situation, en raison notamment de l'arrivée des troupes françaises.
Je voudrais, en tant que prêtre, homme de Dieu, pardonner à tous ceux qui ont tué mon frère hier, leur donner mon pardon, mais au même moment, je prie pour eux. Je prie pour leur conversion, qu'ils se convertissent avant le jugement de Dieu. Même si ma famille et moi, nous avons une profonde douleur dans notre cœur par rapport à la mort de mon frère, un message d'espérance et de paix, et le temps liturgique de l'Avent que nous sommes en train de vivre nous invite aussi à ça. Nous attendons notre Seigneur, lui est notre paix, comme dit saint Paul.
Aujourd'hui, quel est votre regard sur la situation en Centrafrique?
Je ne peux que porter un regard d'espoir. Je répète, le peuple centrafricain a beaucoup souffert. À l'heure où je vous parle, les dernières nouvelles nous parlent de plus de 130 morts pour la journée d'hier. Alors habituellement, quand on parle de 130 morts, il faut encore doubler les chiffres. C'est vrai, c'est difficile parler d'espoir, parler d'espérance, mais je vois à partir d'aujourd'hui, en allant avec l'intervention de l'armée française, la résolution de l'ONU, déjà le début d'espérance, d'espoir. Et en tant que prêtre, je crois qu'on arrivera à cette paix tant attendue pour le peuple centrafricain.
L'arrivée de la France, des forces armées françaises, est-ce que c'est porteur d'espoir pour la Centrafrique ?
Disons qu'il y a longtemps, quand il y a eu le coup d'État le 24 mars dernier, que nous avons élevé notre voix à la communauté internationale pour crier haut et fort le drame du peuple centrafricain à travers les diverses exactions commises. Vu que la situation en Centrafrique était et est encore chaotique, dramatique, et que l'Union africaine vraiment n'a pas pu faire le poids pour reporter la paix dans notre pays, alors l'intervention d'une force internationale au niveau de l'ONU était vraiment attendue. Dieu merci, cette intervention, cette décision a été prise hier, mais il y a longtemps qu'on attendait ça. Et donc l'armée française est connue du pays, et je crois que l'intervention française en appui à la force de l'Union africaine déjà présente sur le pays sera vraiment le début d'un retour à la paix dans mon pays. Dans ce climat de confusion, de tohu-bohu total, il y a aussi le grand risque d'un règlement de compte fort. Et puis la peur, c'est que on veut vraiment arriver à un conflit interreligieux. Or, le problème est politique, c'est pas religieux. Et donc les musulmans entre les chrétiens, etc. Et donc il faut vraiment réussir à tenir le coup pour ne pas en arriver là. J'entends par règlement de compte les musulmans avec les chrétiens. Parce que là, la population civile aussi est prise en otage. Non, vu que Anti-Balaka, c'est une autodéfense composée, disons, de la population qui a souffert des exactions de Seleka. Et donc, on craint aussi les représailles de la part de Seleka vers la population civile. Parce que semble-t-il que les Anti-Balaka, ils n'ont pas de tenue militaire. Ils sont comme des civils. Les Seleka peuvent aussi s'en prendre aux civils, pensant que les civils font le jeu des Anti-Balaka.
Et c'est avec cet entretien réalisé par Jean-Baptiste Cocagne que prend fin ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Plus de détails sur notre site internet www.radiovaticana.va ainsi que sur notre page Facebook Radio Vatican en français.